RFI, il est 22h à Paris et au Caire, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la visite du président français en Égypte. Emmanuel Macron a parlé de la situation à Gaza avec le président Abdel Fattah el-Sissi et avec le roi de Jordanie. Les trois dirigeants se sont aussi entretenus sur le sujet par téléphone avec le président américain. Donald Trump qui regarde les bourses s'effondrer et menace la Chine de lui imposer 50% de droits de douane en plus de ceux déjà mis en place si elle continue à vouloir contre-attaquer. De son côté, l'Europe propose à Washington d'abolir de part et d'autre de l'Atlantique les droits de douane sur les produits issus de l'industrie. Enfin, le président serbe nomme un nouveau Premier ministre pour faire face aux manifestations anticorruption, mais les manifestants comme l'opposition le rejettent déjà.
RFI.
Emmanuel Macron est au Caire. Le président français a été accueilli ce matin par Abdel Fattah el-Sissi au palais présidentiel. Les deux présidents ont dit leurs préoccupations sur la situation humanitaire à Gaza et ils ont rappelé l'importance d'un retour au cessez-le-feu. Emmanuel Macron a mis en avant la convergence de vues entre les deux pays.
Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. La France rejoint aussi l'Égypte sur un point majeur, et je veux le redire ici avec force. Nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Je réitère également mon plein soutien au plan de reconstruction pour Gaza endossé par la Ligue arabe le 4 mars dernier. Et je salue ici le travail crucial de l'Égypte sur ce plan, qui offre une voie réaliste à la reconstruction de Gaza et qui doit aussi ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne dans l'enclave, dirigée par l'autorité palestinienne.
Emmanuel Macron, qui a, on l'a appris ce soir, organisé un appel avec Donald Trump, Abdel Fattah el-Sissi et le roi de Jordanie, Abdallah II, sur la situation à Gaza. La bande de Gaza, où ce lundi, un journaliste palestinien a été tué et 9 autres blessés par une frappe israélienne à Khan Younes. Information donnée par le Hamas, l'armée israélienne dit avoir visé un terroriste agissant sous couverture de journalistes. De son côté, le Croissant Rouge palestinien a estimé ce lundi que les secouristes et les travailleurs humanitaires tués le 23 mars dernier à Rafah ont été touchés par des tirs israéliens avec l'intention de tuer. L'ONG appelle la communauté internationale à former une commission d'enquête internationale indépendante. De son côté, le chef d'état-major israélien ordonne une enquête plus approfondie. C'est le plongeon pour les bourses mondiales. Ce matin, Hong Kong a terminé en baisse de 13,22%, sa plus forte chute depuis la crise boursière asiatique de 1997. Les bourses européennes ont fermé à la baisse également, moins 4,13% pour Francfort, moins 4,38% pour Londres et une baisse de 4,78% pour Paris. Pendant un instant, cet après-midi, les marchés ont brièvement tenté de remonter à cause d'une information selon laquelle Donald Trump envisageait une pause sur les droits de douane, information erronée. Les marchés ont ensuite continué leur chute. De son côté, Donald Trump menace d'alourdir encore plus les droits de douane sur les produits chinois, 50% de plus, si Pékin persiste à vouloir riposter à son offensive douanière, ce qui ferait une augmentation en tout de 104%. Par contre, le président américain laisse la porte ouverte à des négociations avec les autres pays touchés. Daniel Valo, bonsoir.
Bonsoir.
Cette porte ouverte, ça tombe bien puisque l'Union européenne a proposé ce lundi à Washington d'abolir les droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique sur les produits issus de l'industrie.
Oui, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a fait cette proposition. Il s'agirait donc d'exempter de droits de douane les produits industriels, dont l'automobile, les produits chimiques ou pharmaceutiques. L'Europe est toujours prête à conclure un bon accord avec les États-Unis, a déclaré ce lundi Ursula von der Leyen. La Commission, qui fait écho d'une certaine façon à la proposition ce samedi du milliardaire américain Elon Musk d'une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La Commission qui veut se montrer conciliante donc face aux États-Unis, mais qui se dit prête également à défendre les intérêts de l'UE et de répondre par des contre-mesures si nécessaire. L'UE prépare sa riposte et elle prévoit d'ailleurs de déclencher des droits de douane de 25% à partir du 16 mai sur certains produits en réponse aux droits imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Selon l'agence Reuters, dans cette série de contre-mesures, la Commission a choisi cependant de retirer le bourbon du Kentucky afin de protéger les vins et spiritueux européens. Donald Trump avait agité la menace de droits de douane de 200% si le bourbon était visé.
Oui, on s'en souvient. Merci Daniel Vallaud. Ce lundi, Moscou a estimé que toute une série de questions restent à régler avant de conclure un cessez-le-feu avec l'Ukraine. De fait, les pourparlers initiés par Washington peinent à aboutir. On s'en souvient, à la mi-mars, Donald Trump avait fait part de son impatience et vendredi, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, affirmait que le président ne tomberait pas dans le piège des négociations interminables. D'autres négociations, cette fois entre Washington et Kiev. L'Ukraine va envoyer cette semaine une délégation aux États-Unis pour discuter du fameux futur accord sur les terres rares. L'Ukraine avait reçu une nouvelle version du texte fin mars. Après l'échec, on s'en souvient d'une première signature en février lors d'une rencontre très tendue entre les présidents des deux pays à la Maison-Blanche. Direction maintenant la Serbie, où le président Aleksandar Vučić nomme un nouveau premier ministre qui doit donc former un gouvernement. L'objectif, c'est de mettre fin au mouvement de protestation anticorruption qui secoue le pays depuis plus de 5 mois. Et c'est déjà un échec puisque le nouveau venu a été rejeté par les manifestants comme par l'opposition. Correspondance Laurent Rouy.
En nommant un premier ministre en charge de former un gouvernement, le président Aleksandar Vučić ferme la porte à toute négociation avec sa population qui bloque le pays depuis 5 mois. Il fait aussi la sourde oreille à l'opposition qui réclame un gouvernement de transition vers des élections libres. Le président confie donc à Đuro Mačut, un médecin endocrinologue inconnu du public, la tâche de former le gouvernement. Difficile d'en savoir plus sur les orientations du futur cabinet, Đuro Mačut ayant refusé de s'adresser à la presse tant que son gouvernement ne serait pas formé. Quoi qu'il en soit, ni les étudiants ni l'opposition n'accordent le moindre crédit au futur Premier ministre. Des représentants étudiants ont rappelé que le problème en Serbie était lié au non-fonctionnement des institutions qui ne luttent pas contre la corruption. Les partis d'opposition, eux, dénoncent une manipulation du président Vučić pour gagner du temps et tenter de sauver son régime. Dans ces conditions, pas sûr que le futur Premier ministre puisse mettre fin à la contestation qui agite le pays. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
Le prince Paul de Roumanie a été incarcéré en France ce lundi. Ce descendant d'un des derniers rois de Roumanie est accusé d'avoir agi avec une bande d'escrocs entre 2006 et 2013 pour récupérer des propriétés qu'il revendiquait en tant qu'héritier de la famille royale. Paul de Roumanie est âgé de 76 ans. La perpétuité pour Mohamed Bedjoub. En 2019, cet Algérien, sympathisant du groupe État islamique, avait commis un attentat à Lyon. Il avait déposé une bombe artisanale devant une boulangerie dans une rue piétonne. L'explosion avait fait une quinzaine de blessés, dont une fillette de 10 ans. En France toujours, la justice ordonne l'arrêt d'un parc éolien du sud-ouest du pays, dans l'Hérault. Objectif, protéger les faucons cresseurs ailettes en période de nidification. Le tribunal de Montpellier a également jugé 10 sociétés responsables de la mort de 160 oiseaux appartenant à des espèces protégées. On va maintenant s'intéresser à la décarbonation du transport maritime. Les négociations de l'Organisation Maritime Mondiale ont repris aujourd'hui à Londres. Elles vont se poursuivre jusqu'au 11 avril et l'enjeu est crucial. Aujourd'hui, le transport maritime représente 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En juillet 2023, les pays de l'Organisation Maritime Mondiale se sont engagés à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Maintenant, il s'agit de se mettre d'accord sur la manière d'y parvenir. Igor Strauss.
D'un côté, une grande majorité des États africains et du Pacifique qui demandent une taxe élevée, $100 la tonne de carbone émise. De l'autre, la Chine, le Brésil, l'Arabie Saoudite qui ne veulent pas d'une taxe, mais d'un système de crédit carbone pour récompenser les bateaux peu émetteurs et punir les plus polluants. Et au milieu, l'Union européenne qui tente de négocier et propose une taxe mais beaucoup moins élevée que les $100 la tonne annoncée, ce qui serait préjudiciable pour Bastien Bonnet-Cantaloube de l'association Carbon Market Watch.
On garde une taxe qui serait plus faible en revenus, donc ça veut dire moins de revenus pour aider au développement des carburants verts. C'est moins d'argent aussi pour gagner en efficacité énergétique. Et c'est aussi moins de revenus pour supporter les pays, notamment les pays les plus vulnérables, dans leur transition énergétique. Donc c'est des énormes enjeux qui sont en fait adossés à cette question de génération des revenus.
Selon les experts contactés par RFI, les négociations vont être âpres entre les pays qui considèrent la taxe comme le moyen le plus efficace pour encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires et leurs opposants qui craignent pour leur compétitivité commerciale.
Igor Strauss, et puis la Cour pénale internationale le confirme, Dominique Onéguen, actuellement en prison pour 25 ans, est condamné en appel à verser 52 millions d'euros d'indemnisation à ses victimes. Dominique Onéguen fut l'un des principaux chefs de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, en Ouganda.